Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Gabriel Attal a appuyé sur ce sujet pendant tout le week-end, que ce soit des interviews dans la presse écrite ou sur BFM TV. Attention de ne pas oublier ceux qui travaillent, mais qui généralement touchent relativement peu d'aide, voire aucune aide, car ils sont un peu au-dessus des plafonds, et qui ont réellement le sentiment de payer pour ceux qui ne travaillent pas. Tout ça est lié à la multiplicité des chèques et des aides et des subventions en tout genre auxquelles on assiste depuis quelques mois. Et derrière, on posera cette question qui a été soulevée dès jeudi par Philippe Martin, l'ancien président du CAE, sur le fait de savoir s'il faut imaginer un impôt exceptionnel sur les contribuables qui sont à la tranche marginale de l'impôt sur le revenu compte tenu de cette facture du choc énergétique très élevé que nous devons payer. La lutte contre l'inflation, est-ce que ça peut justifier d'aller plus loin dans l'encadrement des loyers? En tout cas, beaucoup de municipalités veulent suivre les exemples de Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Villeurbanne ou encore Montpellier. L'inflation va monter, c'est la certitude de Christine Lagarde. Elle l'a annoncé hier. Elle confirme que les hausses de taux de la BCE vont également continuer. Le taux de refinancement de la zone euro est à 2%. Toute la question est de savoir si la prochaine hausse sera de 50 points de base ou de 25 points de base. Et puis ce chiffre, actualisé tous les ans par Fipeco.fr, combien la SNCF coûte aux contribuables en 2021? 18,5 milliards d'euros. Bonjour François Eckhall.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Fipeco.fr. Je vous invite vraiment à aller voir Fipeco.fr. Et professeur d'éco à Paris 1. Dany Lang, bonjour.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie, Christian Proyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole, président de la commission Mutations technologiques et impacts sociétaux du MEDEF. Je voudrais votre réaction, Dany Lang, à ce que nous dit Gabriel Attal dans sous toutes ses formes. C'est cette France laborieuse. Ils ont un peu le sentiment qu'ils l'ont oublié, la France laborieuse. Et c'est donc le tout début de la classe moyenne. On doit être à 1850-1900 euros de revenus par mois pour une personne seule. Et cela, à chaque fois qu'on annonce un chèque, fuel, énergie, peu importe, eh ben cette France-là a le sentiment qu'elle n'y a pas droit. Par contre, qu'elle le paye et qu'elle travaille sans jamais rien toucher pour ceux qui ne bossent pas. Il l'a dit comme ça. Il a d'ailleurs eu cette phrase, Gabriel Attal, qu'il n'a pas voulu commenter ni démentir d'ailleurs. Mais il dit, il y a ces gens qui ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour ceux qui ne bossent pas. Et le sentiment est réel, Dany, je pense.
Le sentiment est peut-être réel, mais c'est toujours un peu la même rhétorique qu'on oppose les pauvres à ceux qui sont un peu moins pauvres. Comme ça, on évite de reposer le véritable problème. Et une fois de plus, je l'ai posé plusieurs fois ici, Nicolas, c'est la répartition du revenu entre les salaires et les profits. On a la part des profits qui est de 9,2% plus élevée qu'en 1980, d'après les données de la Commission européenne. Je ne parle pas de Cheguevara.com ou non, les données Ameco de la Commission européenne. Alors, si on prend ça sur un peu plus long terme, on est quand même... si on prend le début des années 70, on est... autour de quand même 3-4% qui sont passés de la poche des salaires vers la poche des actionnaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les deux tiers des profits ne sont plus réinvestis dans les entreprises. On a un tiers qui est réinvesti, les deux autres tiers qui partent aux actionnaires. On oppose les pauvres ou un peu moins pauvres. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette opposition-là. Moi, je serais pour qu'on revienne sur des rémunérations plus raisonnable pour les actionnaires et que ça aille effectivement dans la poche des salariés.
Bon, réaction François Eckhall par rapport à ce que... C'est une démonstration à laquelle on a souvent assisté de la part de Dany Lang, nous expliquant que
oui,
contrairement
mais
à...
Je vais tweeter ça parce que, personne ne me croit sur ces données, pourtant c'est les données de la Commission européenne, c'est le site Ameco.
Dany Lang nous explique assez régulièrement que lorsqu'on dit qu'en France le partage du profit ne s'est pas déformé depuis une 20 ou 25 ans au profit du capital et au détriment du travail, il nous dit que ça n'est pas
le
vrai.
Il y a que l'ANC qui dit ça, le FMI et la Commission européenne.
Sur ce sujet-là,
sont les données auxquelles je me réfère.
Sur ce sujet-là, est-ce que vous avez, François Eckhall, un avis sur le partage du profit?
Alors, pas spécialement sur le profit, mais plus généralement sur les inégalités. Mmh. Si on prend les données de l'OCDE ou de la Commission européenne, les mêmes données, ce qu'on voit, c'est que la France est un pays qui n'est pas particulièrement inégalitaire. Mmh. On est plutôt un peu plus inégalitaire que la moyenne. Contrairement à beaucoup de pays de l'OCDE, les inégalités n'ont pas beaucoup augmenté en France sur les 20 dernières années, contrairement donc à d'autres pays. Et si on est dans cette situation, c'est parce qu'on redistribue quand même beaucoup. Alors, on redistribue beaucoup monétairement, donc d'où en effet l'impression par certains peut-être qu'ils payent beaucoup et ils ne reçoivent pas beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que ça, ces comparaisons, elles se font sur la base de la redistribution monétaire. C'est-à-dire d'un côté les impôts sur le revenu, etc., et de l'autre côté les prestations sociales, essentiellement sous conditions de ressources, les prestations familiales, les minima sociaux, etc. Mais il y a une autre forme de redistribution qui est beaucoup plus difficile en fait à estimer, mais pour lesquels il existe des travaux. Il y a eu des travaux de l'INSEE récemment et il y a eu des travaux de CDE il y a un peu plus longtemps. C'est la redistribution à travers les services publics.
C'est ça.
Et quand on prend en compte la redistribution à travers les services publics, les classes moyennes sont gagnantes. Elles sont très gagnantes parce qu'elles en profitent beaucoup. Et donc là, cette redistribution-là, elle est très forte. Alors là, elle est beaucoup plus importante. Enfin, elle se fait beaucoup plus vraiment des classes supérieures vers les classes moyennes ou les classes pauvres.
Mais là, vous y mettez donc ces fameuses classes moyennes qui ont le sentiment de déclassement.
En fait, ce que montrait, si je me souviens bien, mais de mémoire, ce que montrait les travaux d'INSEE, c'est qu'il y avait de la redistribution à peu près jusqu'au 7e décile. Voilà. Si on intégrait les services publics. Donc, à 7e décile, on a la classe moyenne.
Mais je veux bien, alors, Christian Poyot, là, sur le partage capital-travail, on élargit considérablement le sujet. Mais sur ces gens qui ont le sentiment qu'ils sont ceux qui payent et qui ne touchent pas, mais qui ne vivent pas non plus très très bien parce qu'ils n'ont pas une rémunération astronomique. Repartez sur le sujet qui vous vient à l'esprit.
Je vais apporter un commentaire là-dessus, mais pour répondre, alors moi je peux mettre en avant des éléments économiques, je ne suis pas économiste au quotidien, mais enfin, à qui veut-on faire croire que la France est un pays inégalitaire en comparaison par rapport aux autres? Enfin, ça n'existe pas. Le taux de redistribution par rapport à nos comparables européens, américains, voilà, on est un pays dans lequel la taxation sur les entreprises, sur les gens les plus aisés, et il faut qu'il y en ait bien évidemment, et quasiment la plus forte. Donc bon, voilà, ça c'est un constat tout à fait simple. Après, sur ce sujet de Gabriel Attal, je vais reprendre une phrase qu'a dit Védrine il y a relativement peu de temps, je la trouve très bonne, qui est « la minorité qui est la plus délaissée, eh bien c'est la majorité en fait ». Et je pense que ça recoupe assez bien ce propos, c'est-à-dire que oui, effectivement, une majorité de nos concitoyens qui vivent de manière correct, mais sans bien sûr avoir des moyens très importants. Et ceux-là, on n'en parle pas souvent, ou ils sont pas toujours mis en avant, ou on les aide peut-être effectivement un petit peu moins. Alors après, il y a toujours du ressenti. On sait très bien que le ressenti et la réalité, des fois, il y a un décalage qui peut exister. C'est vrai que sur le sujet des services publics sont très importants en France, il y a peut-être cet élément-là. Mais
et comme c'est pas monétaire, les services publics, c'est plus difficile à palper. Voilà.
On pourrait élargir le propos, mais je veux pas le faire là. On est tout le temps en train de parler effectivement de sujets spécifiques qui sont respectables et qu'il ne faut bien sûr pas laisser de côté, mais c'est tout le temps des cas particuliers, des minorités, des sujets spécifiques. Ce sur quoi il faut travailler, je pense, en premier lieu, c'est effectivement la grande majorité des Français et essayer de leur apporter le maximum de bien-être, de sécurité, d'emploi, évidemment, pour qu'on ait un développement harmonieux du pays. Voilà. Donc, encore une fois, la majorité, je pense, n'est pas suffisamment prise en compte par nos politiques et par les médias.
Allez-y, Dany Long. Après, je voudrais qu'on parle, qu'on évoque.
Je voulais juste compléter ce que disait mon collègue, parce que c'est pas contradictoire. Effectivement, on a une déformation du partage de la valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle la redistribution primaire. Mais quand on regarde la redistribution secondaire, c'est très vrai ce que vous disiez. C'est-à-dire, quand on regarde le fameux indice de Gini, qui nous permet de mesurer les inégalités, en France, on est à peu près aussi inégalitaire qu'aux États-Unis et au Japon avant redistribution. Ce serait extrêmement violent si on n'avait pas ce système redistributif. Et après redistribution, on tombe à des niveaux plus civilisés.
On est à peu près à 0,2-0,3 sur Gini. Plus on est proche de zéro, plus on est égalitaire.
Oui, voilà, on tombe à 0,31, ce qui est à peu près le niveau de l'Allemagne après redistribution.
Si on est à 1,
d'autres pays européens, on est un peu plus inégalitaire que les pays du Nord. Mais c'est vrai que, ce que disait monsieur, il y a la redistribution jusqu'au 7e décile. Et c'est vrai aussi que les services publics, c'est très difficile à estimer. Et que c'est plutôt les gens qui font partie de ces classes moyennes qui soi-disant sont délaissés, qui en bénéficient. Donc, j'abonde dans votre sens, de ce point de vue-là. Mais les deux ne sont pas incompatibles, vous voyez. Mais moi, je pense que aujourd'hui, la question primordiale, c'est la redistribution primaire du revenu. Il faut juste accepter, dans le contexte actuel, juste de rééquilibrer un peu le partage de la valeur.
Est-ce que vous estimez que les profits en France sont moins taxés que dans les autres pays ?
Mais c'est pas la question.
Mais si, on est dans un monde ouvert, on est dans un monde de concurrence.
C'est pas la question.
Si vous taxez les profits et les entreprises plus que nos concurrents, eh bien, les capitaux vont
ailleurs. Moi, je suis monsieur, c'est un argument qu'on entend depuis des années.
Mais oui, c'est une réalité.
Et qui nous a mené dans une situation.
Ah, bah oui, dans une situation, l'industrie française est en retard par rapport à tous les autres pays. On a des impôts de production beaucoup plus forts. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est la réalité.
Parce que, selon vous, l'investissement dépend du niveau de taxation.
Ah bah, si vous voulez, si vous êtes
c'est pas
plus...
ce que disent les études empiriques.
Bah oui, mais faut peut-être aller sur le terrain de temps en temps. Voyez, si vous êtes plus taxé dans un pays, vous y allez moins que dans un autre, vous êtes moins taxé. C'est
pas
regardez ce qui se passe en ce moment sur l'énergie.
Mais quand vous regardez les déterminants de l'investissement, généralement,
regardez le niveau de l'industrie française aujourd'hui par rapport
ensemble,
à la concurrence.
Pas ensemble. Si on admet,
les travaux scientifiques un peu sérieux, je suis désolé, il y a beaucoup de paramètres qui déterminent l'investissement, mais la taxation, soit n'est pas significative, soit une significativité très faible par rapport à d'autres composantes comme la demande, la qualité des infrastructures, la qualité de la main-d'œuvre, etc.
Je sais donc qu'il y a. Allez-y, pardon.
J'ai beaucoup de respect pour les travaux scientifiques, mais moi je regarde le quotidien. Vous voyez, moi je suis les pieds dans la glaise, dans la réalité de tous les jours. Je ne suis pas en train de commenter, je suis en train de faire. Et quand vous regardez ce que font les entreprises françaises, aujourd'hui, elles sont dans une situation plus compliquée que leurs confrères européens et américains. C'est une réalité. Voilà, point. Vous regardez le nombre d'entreprises qui existent. La rentabilité moyenne des entreprises françaises, elle est plus faible qu'ailleurs. Voilà.
On ne va pas avoir le débat pour savoir si, effectivement, le partage de la valeur ajoutée est resté stable ou s'est déformé. Mais si on imagine... Actons ça, Dany Lang. La solution...
Merci quand même les données de la Commission européenne.
Oui, non, j'entends. Mais la solution pour rétablir une situation qui serait plus... satisfaisante. Ce serait quoi ?
Déjà, on commence par revaloriser le SMIC de manière significative, ce qui n'a pas été fait à ma connaissance significativement. C'était 95 Chirac.
C'est les coups de pouce auquel on parle. Parce que là, le SMIC est indexé sur l'inflation.
Un coup de pouce, j'aimerais quand même rappeler que quand il a été créé, ça permettait à une famille de vivre. Aujourd'hui, un individu au SMIC a du mal à joindre les deux bouts. Donc, parce que quand on revalorise le SMIC, il y a tous les salaires qui sont jusqu'à 1,6 fois le SMIC qui augmentent.
Donc on commence jusqu'à 1,3, après c'est moins évident.
On verse un tout petit peu moins aux actionnaires et surtout on met en place des incitations fiscales pour que les profits soient réinvestis plutôt que distribués.
Qu'est-ce que vous en pensez de la question du SMIC, François Eckhall, et de l'idée de créer des niches fiscales pour inciter à l'investissement ?
Si on fait des comparaisons internationales, il faut bien avoir en tête que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre.
Oui.
Donc la bonne comparaison, c'est le SMIC par rapport au salaire médian ou au salaire moyen. Et quand on fait cette comparaison, la France est plutôt en tête. Alors je ne dirais pas, là, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai plus les chiffres, si on est les premiers, les deuxièmes ou les troisièmes de l'Union européenne.
Je crois qu'on est à 68%
mais
du médian.
on n'est pas loin. Si on n'est pas dans le trio de tête, on n'en est pas très loin. Hein.
Oui.
Et ce qui se passe, c'est que depuis très longtemps, depuis une 20-30 ans, on remonte quand même le SMIC pour se retrouver dans cette situation, par rapport aux autres pays. Et pour éviter que ça coûte trop cher aux entreprises sous forme de coûts, coûts de travail trop élevés, eh bien, on fait des allègements de cotisations sociales patronales. Le problème aujourd'hui,
c'est qu'on est à zéro
de cotisations patronales. Alors, on a trouvé autre chose, c'est-à-dire, comme on ne peut pas aller plus loin, donc on a trouvé la prime d'activité, ce genre de choses, on essaye de trouver d'autres sommes, mais c'est pas évident, parce que la prime d'activité ça coûte cher aussi, c'est en termes de finances publiques.
Elle avait été très rehaussée après les gilets jaunes, de 90 euros par mois.
L'idée de la prime d'activité c'est de permettre à ceux qui travaillent au niveau du SMIC, etc., d'avoir quand même une rémunération un peu plus élevée, sans pour autant à remonter le SMIC lui-même, parce qu'on ne peut plus le compenser pour les entreprises par des allègements de cotisations, sachant qu'il n'y a plus de cotisations au niveau du SMIC. Voilà, on est dans l'impasse, mais dans une situation, je répète quand même, où on a un niveau du SMIC, on peut trouver qu'il est insuffisant pour travailler, bien sûr, on trouvera toujours qu'il est insuffisant, mais par rapport aux autres pays, si on prend comme référence les autres pays, non, on est plutôt bien placé.
Christian Poyot, on faisait la réflexion avec Erwan Tison de l'Institut Sapiens hier. On a vu toute la panoplie des aides qui existent, chèque énergie, avec un abondement exceptionnel de 100 à 200 euros supplémentaires par rapport au chèque énergie de base, le chèque fuel de 200 euros cumulable avec le chèque énergie, le bouclier tarifaire pour tous les Français en 2023, la ristourne sur les carburants qui a été abaissée mais qui est encore en vigueur, le futur bouclier carburant pour les gens qui travaillent et qui roulent beaucoup. Hier, on annonçait le chèque bois pour les gens qui se chauffent au bois. Il y a quand même un moment où on est obligé de constater qu'on a une partie du pays qui n'a pas assez pour vivre avec son salaire.
Non mais, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans une situation très compliquée et qu'il faut aider ? Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Alors, sur ce sujet, première remarque, il faut essayer de cibler au maximum, d'accord ? Donc là, on commence à sortir là, de cette aide de... Enfin, maintenant, c'est plus 30 centimes, c'est 15 centimes sur le carburant.
10 depuis mi-novembre, oui.
Excusez-moi. Ok, très bien, mais encore une fois, tout le monde en a profité, y compris peut-être nous-mêmes autour de cette table, où a priori, on n'est pas les premiers concernés. Donc, il faut cibler. Aider les gens les plus modestes sur ce sujet-là, et notamment, c'est vrai, les gens qui sont en région, qui utilisent beaucoup leur véhicule, qui peuvent pas prendre de vélo ou quoi que ce soit, il faut le faire, bien sûr. Mais on raisonne de manière beaucoup trop large. Et puis, deuxième remarque, et je vais reprendre ma casquette, évidemment, entrepreneur, c'est bien d'aider les particuliers, mais l'aide aux entreprises par rapport aux autres pays européens, elle est ridicule. Elle est ridicule. Regardons l'Allemagne. Eux, ils ont essayé d'agir sur les deux pans. Nous, on a déjà agi sur les personnes physiques. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut rien faire, mais très bien. Mais sur les entreprises, c'est la portion congrue. Mais on voit ce qui est en train de se passer, là, si vous voulez. Vous avez lu les derniers articles des journaux, etc.
Tous les jours, je vois les signaux d'alarme qui, dans tous les secteurs.
Voilà, les entreprises qui vont être dans une situation très compliquée à fermer ou qui vont exporter leur production. C'est ça, la réalité. Donc, est-ce qu'on pourrait, une fois pour toutes, regarder un peu tous les sujets en même temps? Et encore une fois, les aides aux entreprises sont pas du tout au niveau. Alors ça va pas se traduire tout de suite parce qu'effectivement il n'y a pas de défilé dans la rue, mais quand il y aura des entreprises qui fermeront, le chômage qui partira, etc., on sera dans quelle situation? Voilà, donc ça là-dessus on a fait preuve de démagogie.
Je regardais hier une analyse de Xerfi Canal d'Olivier Passé qui considérait que c'était compliqué pour les économistes d'expliquer pourquoi la dynamique de l'emploi était toujours là, mais il avait quand même la certitude qu'en 2023 les choses allaient se dégrader.
Et oui.
On en fait trop pour l'offre, pour la demande et pas assez pour l'offre, Dany Long, vous croyez?
Non, je dirais pas ça, parce qu'on a fait des politiques d'offres depuis des années. Le balancier, c'est un tout petit peu rééquilibré. Mais moi, une fois de plus, je pense que mettre des pansements de tous les côtés, c'est bien gentil, mais à un moment, il faut remettre les choses sur la table et reposer ce problème de la répartition primaire du revenu entre salaire et profit. Après, ça suffit pas, évidemment. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté, notamment celles qui ont... Alors là, je vais faire mon choupéterien, mais il y avait un certain nombre de canards boiteux qui ont bénéficié d'une survie artificielle.
Oui, ça va pas durer.
Qui maintenant sont en train de rendre l'âme. Mais ça, c'est parce qu'on les a artificiellement, on leur a artificiellement permis de survivre avec les prêts garantis par l'État. Donc moi, je suis assez inquiet de cette situation parce que au moment où elles vont faire défaut, et ça commence, les tribunaux de commerce commencent à avoir de plus en plus de travail, au moment où elles vont faire défaut, elles risquent d'entraîner avec elles des entreprises qui, elles, n'étaient pas dans des situations qui étaient dans des situations plus solides avant ça, et avec les prêts garantis par l'État, on a fait augmenter la dette privée. Or, c'est la première cause de crise économique, les niveaux de dette privée par rapport à la richesse.
Mais
je suis très inquiet par rapport à ça.
Et pour poursuivre ce que dit Christian Poyot, on voit qu'effectivement, ce qui est mobilisé pour 2023 pour les entreprises est quand même très, très en dessous de ce qu'on aurait pu imaginer. Le problème, c'est qu'on risque de voir des entreprises parfaitement viables ne pas tenir le coup cette année-là à cause de l'explosion du choc énergétique.
Oui.
Et est-ce qu'on a eu raison de payer autant depuis 2020 pour finalement lâcher prise au moment où les choses vont se dénouer?
Oui, mais j'entends bien ce que vous dites. Il y a un moment où on n'aurait pas dû faire de prêts garantis par l'État.
Ah,
on aurait dû aider directement les entreprises parce que c'était se garantir de se retrouver dans une situation où la dette privée gonfle, et où les entreprises qui vont faire faillite, qui devaient faire faillite avant la crise du Covid, risquent d'entraîner avec elles d'autres entreprises qui, elles, étaient saines. Et maintenant, effectivement, on se retrouve dans une situation où on paye notre absence de stratégie industrielle en matière d'énergie. Ça fait un certain nombre d'années que je dis, mais je suis l'un des seuls, maintenant ça commence à devenir audible, que je dis qu'on n'a pas de stratégie industrielle européenne et que la concurrence, c'est pas une stratégie industrielle. Ben maintenant, on commence à le payer, et puis on commence à voir quels sont les effets de cette absence de stratégie industrielle en termes énergétiques. La concurrence en termes énergétiques, ça marche pas bien, on le le sait, on a du recul maintenant, et pourtant on a voulu faire ça. Donc maintenant, il est temps de changer de fusil d'épaule. C'est ce qu'on paye.
On marque une pause, et d'ailleurs, phénomène d'actualité tout à fait concret pour illustrer ce que vous dites, la centrale de Saint-Avold, qui était fermée depuis mars, a repris du service hier pour fournir des kilowattheures carbonés au charbon. Une centrale au charbon, c'est 80% de CO2 en plus par rapport à une centrale à gaz. Marque une pause, je vous demanderai dans un instant ce que vous pensez de... Il a quand même osé franchir le Rubicon, Philippe Martin de l'école de Sciences Po le jeudi dernier, en disant que la situation et le coût de ce choc énergétique entre 3 et 4 points de PIB, hein, pas loin de 100 milliards d'euros, justifierait un impôt exceptionnel sur les plus riches, un impôt sur les personnes physiques. On marque une pause et puis on s'intéressera à la persistance de l'inflation, nous dit Christine Lagarde.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
François Eka, le fondateur de Fipeco.fr. On évoquera la facture pour le contribuable de la SNCF en 2021 dans un instant. Il est professeur d'économie à Paris 1. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Christian Poyot, PDG de Micropole, président de la commission Mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Réaction de Bull Market qui me dit il est plus facile d'être universitaire que plombier ou chef d'entreprise. Votre invité, Dany Lang, ne peut pas dire que la fiscalité française n'est pas déterminante dans l'investissement. Ah, et oui, donc, oui. Il faut taxer les entreprises, augmenter le SMIC, puis 30 secondes plus tard, nous dire qu'il faut des incitations fiscales pour l'investissement. En France, on a trop souvent... Alors, il y a quelqu'un En France, on a trop souvent préféré la redistribution à l'augmentation du niveau de vie. Du coup, dans les classements, cela régresse sans arrêt. C'est Sam qui écrit ça. Et il y a Paul qui m'écrit pour les finances de l'État et le discours sur l'assistanat, ce ne serait pas mieux de réduire les inégalités primaires plutôt que de compter sur la redistribution.
Ah bah, c'est ce que je disais. Il faut les deux, hein, mais.
Ouais, mais
pour moi, la mère de toutes les batailles, c'est celle-là aujourd'hui.
Le problème, c'est que la réduction des inégalités primaires, les outils pour y parvenir.
Oui, bah, c'est le salaire minimum, c'est le point d'indice des fonctionnaires, etc. Oui.
C'était Philippe Martin qui, François Eckhall, nous dit jeudi dernier que ça s'est vu à toutes les époques, dans beaucoup de pays, il faut oser l'impôt exceptionnel sur les plus aisés, parce que la facture doit être partagée. La facture, elle est de 3 à 4 points de PIB. L'État en a assumé plus de la moitié aujourd'hui, et il nous disait, pendant un an, ou pendant deux ans, eh bien, la tranche marginale à 45% de l'impôt sur le revenu, elle passe à 55%. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, il y a une erreur.
Il y a une erreur 2.
L'erreur, c'est que la tranche marginale de l'impôt supérieur de l'impôt sur le revenu est à 45%. Elle n'est pas à 45%, elle est il y a deux tranches au-dessus, à 48 et à 49. Pourquoi ? Parce qu'en 2012, on a créé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc avec ces deux tranches qui s'ajoutent au barème apparent, mais qui existe bel et bien. Et dans le Code général des impôts, ce qui est écrit, ce qui est toujours écrit, c'est que ces deux contributions exceptionnelles sur les hauts revenus seraient maintenues jusqu'à ce que le déficit public soit nul.
Oh. Oui, c'est écrit comme ça.
C'est écrit comme ça dans le Code des impôts. En 2012, mais parce qu'en 2012, on avait une loi de programmation des finances publiques, programme de stabilité, etc., qui prévoyait un déficit public nul. Ça devait être en 2016. Ça. Donc c'était un impôt exceptionnel supposé durer 3 ans à peu près. Voilà.
Mais c'est le problème des impôts exceptionnels,
c'est ça le problème des impôts exceptionnels. C'est-à-dire, économiquement. Un impôt exceptionnel qui vraiment vous tombe dessus, dont on est absolument sûr qu'il ne reviendra jamais, etc. Les économistes aiment bien parce que c'est totalement forfaitaire. Ça ne change pas les comportements. Voilà. Vous êtes surpris, donc vous n'avez pas modifié vos comportements préventivement et vous êtes persuadé que ça ne reviendra pas. Donc vous n'avez pas de raison non plus de le modifier après. Le problème, c'est que...
Est-ce que c'est crédible?
Le problème en France, c'est que les impôts exceptionnels... Pour moi, c'est pas crédible. Voilà.
C'est pas crédible.
On avait la
dans votre pays, d'ailleurs.
On avait la CRDS qui avait été créée pour financer la CADES. Tout ça a été prévisoire.
La CRDS était aussi exceptionnelle.
La vignette qui a duré plusieurs décennies.
La vignette a disparu, quand même.
Elle a disparu.
La redevance télé aussi a disparu.
Oui. Au bout de 40 ans, c'est pas forcément la meilleure des idées.
Effectivement, la taxe d'habitation.
Impôt exceptionnel, je suis assez d'accord. Ça a tendance à devenir permanent et il vaut mieux avoir le courage politique, mais c'est plus compliqué d'assumer une hausse de la tranche supérieure, voire d'ajouter des tranches. Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas des tranches ? Moi, je suis dans la tranche à 30%, je n'ai aucun espoir un jour de changer de tranche. J'aimerais bien un jour aller dans une tranche supérieure et payer plus d'impôts. Mais l'impôt, c'est sa participation à la citoyenneté. Je suis coincé dans la tranche à 30%. Moi, je me souviens que dans cet affreux pays communiste que sont les États-Unis d'Amérique, ils ont été à un moment à une tranche supérieure à 90%, avec des incitations fiscales qui faisaient que si vous remettiez l'argent en investissement dans les entreprises américaines, vous ne rentriez jamais dans ces 90%. C'était bien fait. En France, sous le général de Gaulle, on était à 87,5%. Pourtant, c'était pas non plus le roi des communistes. Le général de Gaulle, on était à 87,5%. Alors, je dis pas qu'il faut revenir à 87,5%, mais moi, je pense qu'il faudrait assumer d'avoir plus de tranches.
Une sixième
et
à 55.
D'avoir plus de tranches qui permettraient à des gens comme moi, des classes moyennes, un jour, d'espérer de payer plus d'impôts en pourcentage de mon revenu et qui permettraient aux plus aisés qui sont... Mais parce qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui, hein. C'est si on regarde les inégalités de patrimoine, on a les 50% qui sont les moins bien lotis, qui ont moins de 5% du patrimoine, et on a les 10% qui, les mieux lotis, qui ont 25% du patrimoine.
Et là, on est en train de parler d'un nid de quelque chose.
Mais moi, j'aimerais bien accéder un jour au patrimoine, et j'aimerais bien un jour payer plus d'impôts, et donc avoir plus de tranches.
Alors là, on parle vraiment d'une situation exceptionnelle en raison du choc énergétique que nous vivons. Vous voulez réagir là-dessus? Réagissez là-dessus.
Premièrement, j'ai dit il y a quelques instants là que sur la subvention sur l'essence, elle devrait être ciblée sur les gens les plus modestes.
Donc, en janvier, c'est le cas.
Voilà. Bon, non, mais ceci pour dire que on doit d'une manière ou d'une autre contribuer à l'effort national et au pays en fonction de ses revenus. J'ai pas de souci par rapport à ça. Après, moi, c'est même plus que ça m'agace. De toute façon, c'est en France impôt. C'est la seule réponse qu'on s'est trouvée. Comme ça a été dit à l'instant, de toute façon, c'est les impôts provisoires qui durent 40 ans, d'accord? Donc, tout le monde rigole sur le sujet. Après, encore une fois, comparons ce que font nos petits copains. Soit on est sur la planète Mars, on est tout seul, mais mettons 99% d'impôts. D'ailleurs, on devient un pays communiste, hein, on n'est pas loin d'être ça, d'ailleurs.
Mélenchon, au-delà de 400 000 ou 300 000,
voilà, c'est ça, exactement, il était à 100%. Pour regarder les programmes de la France insoumise. Soit on regarde plus sérieusement ce que font les autres pays. Voilà. Est-ce qu'on est en France où la taxation sur les revenus, le capital, est la plus faible d'Europe? Certainement pas. Encore une fois, moi, j'ai pas les chiffres
précis. Capital, on est un peu au-dessus de la moyenne européenne. Revenus.
On est plus fort. Voilà, on nous parle souvent aussi des sujets d'héritage, d'accord. Mais regardons aussi comment sont taxés, et c'est pas mon sujet de prédilection, hein, mais comment sont taxés les héritages dans les autres pays. On est aussi en France les plus taxés. On est quasiment les plus taxés sur tout. Donc on veut en rajouter encore. Mais allons-y.
Il y a sûrement une note de Fipeco qui décortique le niveau de prélèvement obligatoire en constatant effectivement que. Alors sur le revenu, ce qui est tout à fait... Non, mais ce qui est extraordinaire sur l'impôt sur le revenu, dans la plupart des pays, il rapporte entre 8 et 9% du PIB. En France, c'est 3,5, je crois, François Eckel. Et pourtant, c'est l'impôt le plus mal vécu parce qu'il est payé par une minorité. Et alors ceux qui payent, ils payent.
Oui, c'est quoi le nombre de gens qui payent l'IRPP? C'est moins de
18 millions. 18 millions de foyers.
Un peu moins de la moitié.
18 millions de foyers sur 20.
Et si on réfléchissait sur l'optimisation des finances publiques, parce que ça, sur le sujet, là, on n'entend jamais ça.
Oh, ça fait quand même un certain nombre d'années que, au nom de l'optimisation des finances publiques, on fait réforme sur réforme, qui font qu'aujourd'hui, par exemple,
il y a qui le siège qui s'est et vous avez une manette de l'autre côté là.
Il y a mon siège qui vient de s'effondrer.
Oui, non, mais vous allez prendre
l'ordre. C'est sur le mot réforme publique, vous voyez. Voilà.
Mais ça fait des années qu'on nous fait des coupes dans les dépenses publiques, au nom de l'optimisation, au nom de ceci, au nom de cela.
Le fait qu'aujourd'hui, au passage,
on a une bureaucratie hallucinante à l'université. On passe notre temps à remplir les
paperasses
pour demander l'autorisation d'aller aux toilettes. Je suis pas d'accord parce que là, franchement, on baisse dans les classements de Shanghai au nom de l'augmentation de la montée dans les classements de Shanghai parce que tout simplement on nous fait faire des formulaires, on passe notre temps à demander de l'argent. Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression d'être au feu rouge et de faire la quête, quoi. Donc, moi, je suis plus d'accord.
Mais tous les profs d'université le disent, Dany Lang. Tous.
Oui, mais d'accord. Mais alors, justement, arrêtons de parler d'optimisation des finances parce que c'est ça qui nous amène cette bureaucratie qui nous tue, notamment
mais
dans
s'il est évident qu'il y a des dysfonctionnements à l'université.
Non, mais je vous parle de la bureaucratie, Nicolas Dose.
Vous levez un peu et vous appuyez sur la manette et il va se relever le tabouret.
Ça m'était jamais arrivé.
Les coupes dans les finances publiques, j'ai pas l'impression qu'on coupe comme des malades dans les finances publiques, François Eckel.
Ça se saurait, non?
On optimise, c'est-à-dire on rajoute de la bureaucratie à tous les étages.
La bureaucratie, bon, mais.
Non, mais la bureaucratie, c'est un thème. Dans l'ensemble des trois fonctions publiques.
Oui, parlons des trois.
Voilà, les trois fonctions publiques.
Donc c'est État, hôpital et collectivité.
Voilà, État, hôpitaux et collectivité. Les emplois consacrés, je dirais, aux fonctions administratives, c'est à peu près 10%, hein, c'est pas plus. Aussi bien d'ailleurs, parce qu'on cite par exemple dans les hôpitaux, ou même d'ailleurs aussi dans les hôpitaux, par exemple, le chiffre de 30%. Dans le chiffre de 30%, c'est 30% de non-soignants. Mmh. Mais non-soignants ne veut pas dire administratif. Un non-soignant signifie aussi des emplois de techniciens qui vont s'occuper des ordinateurs, des travaux électriques.
Les vrais administratifs,
c'est 10%. C'est pas. Oui. C'est pas
mais en Allemagne, c'est combien ce chiffre? Je crois que c'est 20%.
Hein, non, mais alors justement, je sais, parce que c'est moi, enfin, je contribue à. En Allemagne, le 20-25%, c'est l'équivalent du 30% français. Voilà. Donc là-dedans, on met non seulement les administratifs, mais on met aussi les emplois de techniciens, d'ingénieurs, etc., qui sont là aussi pour. Enfin, dans les hôpitaux, dont on a besoin aussi. Alors certes, ça montre que globalement, sur l'ensemble de ces emplois, en effet, il y en a moins en Allemagne, moins dans les autres pays. Ce que je veux simplement dire, parce que enfin, dans le discours politique, c'est pas seulement des ronds de cuir.
Hein. Les ronds de cuir, il en faut aussi.
C'était pas mon propos. Voilà. Mon propos, c'était de dire qu'on refile de plus en plus d'administratifs au personnel hospitalier, à toutes les personnes au nom de l'optimisation des finances publiques. Donc franchement, si c'est pour nous rajouter une couche de bureaucratie supplémentaire, non merci.
Le problème de la complexité administrative en France, il y a même un candidat à la présidentielle qui en avait fait son cheval de bataille, même s'il n'est pas allé au bout de l'histoire. Il y a deux chiffres qui me viennent en tête. Le premier, c'est quand vous prenez le budget de l'éducation nationale, 51 ou 52% payent les enseignants et 49% payent la machine.
Au nom de l'optimisation, etc., on refile de plus en plus de procédures, de paperasse, de machins, de choses. Franchement, vrai, on passe notre temps. Dans la recherche, on ne peut plus travailler tranquille.
Vous avez certainement raison, mais au final, franchement, je vous crois à 100%, vous avez tout à fait raison, mais est-ce qu'au final, on a diminué cette part de 49% là? Non, rien du tout.
C'est au nom de ça qu'on l'a fait.
Le FMI, dans ses recommandations de la semaine dernière, dit qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires dans le personnel non enseignant de l'éducation nationale, par exemple.
Quand on regarde, là on a cité les hôpitaux, on vient de citer également l'éducation nationale, qui sont des sujets majeurs pour tout un chacun. Encore une fois, quand on compare par rapport aux standards européens, à chaque fois on a moins d'enseignants face aux élèves et on a moins de soignants face aux malades, parce qu'il y a une part de non-soignants ou de non-enseignants qui est plus forte que dans tous les autres pays. Donc ça veut dire que c'est mal géré. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
En tout cas, cette répartition du budget de l'éducation nationale 49-51, c'est 80-20 en Allemagne. Vous avez 20% pour payer la machine. Voilà. Bon, on va faire la SNCF parce que le temps file. Alors, j'ai déjà des réactions, alors qu'on n'en a pas encore parlé, François Eckhall. Éric m'écrit, combien la SNCF rapporte aux contribuables par ses prestations? Beaucoup plus que son déficit. Quand la SNCF s'arrête, la France s'arrête. Vous avez publié dans Fipeco.fr, c'est la dernière note d'actualité, ce chiffre actualisé de l'ensemble des subventions et des aides à l'investissement, qu'elles viennent de l'État ou des régions, la SNCF perçoit, et on est à 18,5 milliards d'euros.
Alors, c'est un bilan comptable de ce qui est versé par l'État et les régions à la SNCF. Il y a trois catégories de dépenses. Il y a une dizaine de milliards qui sont versés pour couvrir les frais de fonctionnement de la SNCF, essentiellement par les régions ou Île-de-France Mobilité. Il y a à peu près 5 milliards de subventions d'investissement versées par l'État ou les régions, et 3 milliards de subventions de l'État d'équilibre au régime de retraite des cheminots. Voilà, ça fait à peu près 18 milliards. Maintenant, pour répondre à la question, il est justifié que l'État ou les collectivités locales financent en partie le transport ferroviaire. D'ailleurs, ça se fait partout. Pas parce que le transport ferroviaire rapporte des recettes à l'État, parce que les recettes, la SNCF paye des impôts, je dirais des impôts de droit commun, comme tout le monde, mais les recettes spécifiques venant du transport ferroviaire, il y en a très peu, financièrement. Ça se compte, c'est 200 ou 300 millions de redevances, d'impôts, c'est très faible. Une fois de temps en temps, la SNCF verse un dividende à l'État, mais c'est tout à fait exceptionnel, donc il y en a très peu. En revanche, les vrais avantages qui doivent être être mise en place. Et c'est là toute la difficulté, c'est ce que les économistes appellent des externalités. C'est-à-dire le fait que si le transport ferroviaire se développe, il y a moins de gens sur les routes, et donc il y a moins d'émissions de carbone, ou il y a moins d'accidents sur les routes. Le problème, c'est que ça, c'est très très difficile à estimer. Moi, franchement, il y a des études qui sont faites, mais qui permettent pas de répondre à cette question, en réalité. Et donc, simplement, moi, par exemple, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, à nouveau, on s'aperçoit que le transport ferroviaire est moins subventionné, rapporté au nombre de passagers, kilomètres, enfin, en prenant ce genre d'indicateur, que dans les autres pays. Bon, alors peut-être que les autres n'en font pas assez, mais par ailleurs, quand je regarde ce qui est fait en France, bon, bien sûr, alors, je vais prendre aussi un exemple d'actualité. Là, le président vient de nous annoncer qu'on va...
RER de région.
10 RER dans les régions. Moi, ce que je voudrais voir, là, c'est on a pris cette décision. Quelles sont les évaluations socio-économiques de ces 10 projets qui permettent de démontrer que, pour la collectivité, c'est-à-dire en intégrant toutes ces externalités sur les émissions de gaz à effet de serre, finalement, en effet, ces projets sont justifiés. Je pense qu'elles n'existent pas. Et le problème, je dirais, de l'investissement, etc., dans la SNCF, c'est celui-là. C'est que, d'accord, sur le principe, oui, on peut... Mais après, quand il s'agit d'évaluer des projets un par un, etc., on s'aperçoit que non, investir dans le ferroviaire n'est pas toujours forcément une bonne idée. Et aujourd'hui, on paye des erreurs qu'on a faites dans le passé. Moi, quand j'étais à la Cour des comptes en 2008, j'ai écrit un rapport sur l'infrastructure ferroviaire où je disais la SNCF fait des erreurs. Elle fait des erreurs parce qu'elle ouvre des lignes à grande vitesse qui, pour le moment, ne sont pas rentables parce que le trafic n'est pas encore là, alors qu'à côté, elle omet, en fait, d'entretenir le réseau de proximité et aujourd'hui, on paye ses erreurs. C'est-à-dire, on paye ses erreurs parce qu'on est obligé de maintenir, et ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui, de remettre à niveau le réseau de proximité RER et Transilien, parce qu'on a fait des choix d'investissement mauvais dans le passé. Donc, en fait, moi, je suis d'accord, d'un point de vue théorique, on peut, maintenant, moi, je suis aussi convaincu que derrière ces chiffres de 18 milliards, il y a des erreurs de gestion.
Il est des lignes TGV qui, même lorsque les trains sont remplis à 100%, ne gagnent pas d'argent. Qui veut réagir donc à ce chiffre?
Moi, j'aimerais bien réagir.
On garde un peu de temps pour le protectionnisme.
J'aimerais bien réagir parce que je suis d'accord partiellement avec ce que vous disiez. La politique de la SNCF ces dernières années, ça a été les grandes lignes, le TGV. Alors qu'on a besoin pour la transition écologique, la transition énergétique, de rénover et de réouvrir beaucoup de petites lignes. Le maillage ferroviaire était beaucoup plus important en France il y a 30 ans. On aurait mieux fait d'entretenir ça plutôt que de favoriser la politique du tout TGV. Pourtant, moi, je fais partie des gens qui prennent très souvent le TGV. C'est pas dans mon intérêt personnel. Mais par ailleurs, combien ça coûte? Effectivement, la vraie question, c'est combien ça rapporte. Et monsieur a raison de dire que c'est très difficile à estimer. Par contre, quand vous allez à l'étranger, là, allons voir effectivement ce que font nos voisins. 80% des Britanniques sont pour le retour dans le giron ferroviaire des compagnies de transport ferroviaire, parce que c'est un
désastre. Dans le giron de l'État, vous voulez dire.
C'est un désastre.
C'est le cas en Grande-Bretagne.
C'est le chaos. C'est jamais à l'heure.
Ça a été très largement renationalisé en Grande-Bretagne.
Oui, mais d'accord, mais enfin bon, quand même, c'est quand même un désastre. Où le système, j'ai vécu un an en Irlande, c'est même pas la peine d'essayer de prendre le train, quoi. C'est très cher, ça marche pas, on n'arrive même pas.
Ah, mais je vous dis pas que tous les systèmes ferroviaires fonctionnent très bien.
Donc, le système ferroviaire français fonctionne assez bien. Ceci étant dit, oui, effectivement, il y a un problème, il y a un sujet de cette politique qui a été orientée vers les grandes lignes, alors qu'on a besoin des petites lignes. Et effectivement, si on veut réduire drastiquement la consommation d'essence, la pollution, etc., il faudra réouvrir ces petites lignes. C'est très difficile d'estimer combien ça rapporte. Alors, c'est moins compliqué d'estimer
combien ça coûte. Bon, je sais pas si vous voulez réagir de Christian
Couillot. Oui, on a parlé de l'école, on a parlé de la santé, maintenant on parle de la santé. Le sujet, c'est à chaque fois comment c'est géré. Est-ce que ça coûte quelque chose? Somme toute, c'est normal. Enfin, c'est un service public, donc est-ce qu'on doit contribuer à le payer? Moi, ça me choque pas, bien évidemment, mais est-ce que la manière dont c'est géré est la bonne? Alors, il y a le choix d'infrastructures qu'on a donné. Au passage, les lignes TGV, elles ont été faites parce que c'est les élus locaux qui les ont demandées, hein. Donc, bon, voilà. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, je retiens ce qu'a dit François. Il y a 3 milliards sur les les retraites quand même, quoi. Je veux dire, au passage,
ça c'est un sujet. Hein, voilà. Ah oui, vous avez, je crois, 145 000 cheminots pour 230 000 pensionnés. Voilà,
3 milliards. Hein,
y bon. Compris les pensions de réversion. Voilà. Ah ben, il y a un déséquilibre.
Donc c'est là aussi, en termes de gestion et d'égalité des choses et des traitements de retraite entre le privé, il y a un décalage qui n'est pas normal.
J'reste avec vous, Christian Poyot, sur cette visite d'Emmanuel Macron. Il entame une visite de 3 jours aux États-Unis. Il compte bien essayer d'obtenir, alors je ne me demande quoi, mais d'obtenir des ouvertures de la part de Joe Biden sur l'ensemble de cette panoplie de protectionnisme que, alors là, les Américains sont en train de baisser le rideau. Avec d'abord cette loi anti-inflation de 349 milliards de dollars qui commence à être dégainée au mois de janvier. Et puis là, on a appris il y a 48 heures que, exit les équipementiers chinois télécom.
C'est pas comparable, c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose, mais ce sont dans les deux cas des actes de protectionnisme. Qu'est-ce que ça vous...
Enfin, c'est pas une nouvelle, Nicolas. Enfin, si vous voulez, okay, là c'est peut-être plus dur
là,
parce
qu'il
y a l'inflation,
là,
c'est lourd, etc. Mais est-ce que les Américains ont toujours cherché à défendre leurs intérêts?
Bah oui.
Et est-ce que c'est anormal? Bah non. Et est-ce que les Européens doivent faire la même chose? Bah oui.
Donc tout le monde se met en contradiction avec les règles de l'OMC que tout le monde a adopté.
Le sujet, moi je ne suis pas pour le protectionnisme, c'est un mot qui est négatif parce que c'est on n'ouvre pas les sujets, etc. Par contre, le pendant d'un commerce mondial équitable, si je veux dire, c'est que la compétition ne soit pas asymétrique. Donc on ait les mêmes règles de part et d'autre. Hein. Alors que ça soit des règles liées à la protection de l'environnement qui est majeure sur le carbone, sur la production. Que ça soit sur la fiscalité, etc. Force est de constater que l'Europe se comporte depuis très longtemps comme un bisounours qui dit bah, tout le monde doit être pareil, etc. Moi, je considère que les Américains, ok, peut-être que là, ils poussent un peu plus le curseur, mais ils ont toujours été comme ça. Somme toute, c'est simplement l'Europe qui ouvre les yeux et qui dit ah, bah dis donc, les autres, ils ne font pas comme nous.
Ouais.
Ce qui est hallucinant, c'est que cette position, elle n'est pas partagée en Europe, si vous voulez. Hein. La France, là-dessus, est quand même assez moteur sur le point. Les Allemands, on voit en ce moment, c'est quand même un petit peu mou du genou, si vous me permettez cette expression-là. Puis après, des pays comme les Pays-Bas, parce qu'ils ont intérêt plus fort en termes de commerce, qui sont contre le sujet. Mais moi, je ne suis pas choqué de ce que fait les États-Unis. Le fait de ne pas être choqué ne veut pas dire qu'il faut aller lutter, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il faut aller contrer le sujet. Voilà. Mais dans quel monde vivons-nous? Bah, chacun défend ses intérêts. C'est un équilibre entre ses intérêts et l'ouverture du marché. Donc, bon sang que l'Europe se réveille et qu'on mette en place un Buy European Act. C'est assez évident.
Danny Lang.
Alors, pour une fois, j'ai le plaisir infini d'être plus qu'en accord avec quelqu'un du MEDEF. Franchement,
mais
bon,
oui,
ça m'arrive.
Le mot souveraineté au MEDEF n'est pas du tout un mot.
Et d'ailleurs, j'irai plus loin que vous. Quand on regarde l'histoire américaine, mais c'est l'ADN des États-Unis d'Amérique.
Ça me fait marrer quand on dit que c'est un pays ultralibéral.
Ils disent aux autres ouvrez-vous sans le faire. Enfin, c'était. Vous savez qui a théorisé le protectionnisme américain? C'était leur premier ministre de l'économie, c'était Hamilton. Qui a théorisé le protectionnisme américain comme faisant partie de leur stratégie industrielle. C'est de là qu'est partie d'ailleurs la guerre de sécession. C'était pas la question de l'esclavage. La question de l'esclavage, c'est venu après, quand il a fallu justifier cette guerre. Ce qui a justifié, le Nord était protectionniste et le Sud était libre-échangiste. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, il a évidemment fallu trouver d'autres prétextes pour mener une guerre, parce qu'on mène pas une guerre là-dessus officiellement. Mais en tout cas, c'était le... Et les États-Unis ont toujours été un pays protectionniste. Depuis Trump, ils renouent avec cette tradition très ancienne, mais ils ont toujours eu cette attitude disant ouvrez-vous.
Et alors, Dani, pour avancer, l'Europe doit effectivement faire.
Mais on est naïf, mais bien sûr que oui.
D'accord.
Mais bien sûr que oui. Faut arrêter, au nom de l'idéologie du libre-échange, de faire les bisounours, comme vous disiez.
François Eccal, votre avis là-dessus?
Je vais relativiser ce que disent les deux autres. Moi, je suis très inquiet par cette montée du protectionnisme. Parce que je pense que le problème du protectionnisme, c'est que vous dites, oui, les autres sont protectionnistes, donc il ne faut pas qu'on soit naïf, donc il faut qu'on fasse la même chose. Ce à quoi les autres répondent, ah, mais vous prenez des mesures protectionnistes, on va augmenter nos mesures d'aide, de droits de douane, etc. Donc on rentre dans un cercle vicieux qu'on a connu dans le passé, dans les années 30, etc. Et lorsque, comme ça, le protectionnisme monte un peu partout, les perdants, c'est les petits. Hein, c'est les petits pays. Parce qu'un pays comme les États-Unis pourrait très bien vivre en restant isolé du monde. Ils peuvent tout faire aux États-Unis. Ils ont toutes les matières premières, ils ont toutes les ressources, ils sont suffisamment grands pour produire de tout. un petit pays, ne serait-ce qu'un pays comme l'Autriche, le Portugal, etc., ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Il est obligé de se spécialiser. Et si tous les autres pays ferment leurs frontières parce que, à force de représailles dans tous les sens, on finit par monter des barrières protectionnistes partout, les perdants dans cette histoire, ce sont les petits pays de l'Europe, mais aussi les petits pays en développement. Les petits pays en développement qui n'auront plus de marché, qui ne pourront plus exporter. Donc moi, cette montée du protectionnisme, elle m'inquiète beaucoup.
Mais du coup, la solution crève pas les yeux. Oui, mais aller devant l'organe de règlement d'indifférents de l'OMC, c'est...
Je ne dis pas que j'ai la solution.
François, je voudrais compléter mon propos. J'ai jamais dit que j'étais pour le protectionnisme. Moi, je suis pour le libre-échange.
Mais pour la réciprocité.
Voilà, on est dans un libre-échange ne peut fonctionner qu'avec des choses non pas asymétriques, si j'ose dire. À partir où vous avez en face de vous un État qui, lui, prend ipso facto des mesures de protection et qui sont asymétriques, là, il faut chercher à le contrer. Et moi, je le vois plutôt... Alors, tout ça est très complexe, mais non, dire, ok, vous mettez des barrières, je vais mettre les mêmes. Ça sert peut-être à rien. Donc, on va peut-être revenir en arrière. Donc, est-ce que le protectionnisme en lui-même est une bonne chose? Non, certainement pas. De toute façon, les États-Unis, oui, ils sont peut-être à peu près autonomes, mais encore peut-être pas surtout. Le libre-échange, c'est quand même ce qui a fait le développement du monde, le recul de la pauvreté d'une manière générale.
Je ne suis pas d'accord. Je vous conseille une lecture.
Non, mais attendez, donc je finis mon propos.
On a 2 minutes 20.
Moi, je suis pour le libre-échange. Je suis simplement qu'il soit pour des règles identiques pour tout le monde. Et à partir du moment où un pays ne se comporte pas de manière satisfaisante, on va dire ça comme ça, il faut savoir y apporter les bonnes réponses et pas être naïf. Voilà, c'est ça mon propos.
En réponse à ce que vous disiez, il y a un très beau livre de Ewoong Chang. Hélas, il n'a pas été traduit en français.
Qui est-il, pardon, parce que je vois pas.
Ewoong Chang, qui est économiste à Cambridge et qui a écrit un ouvrage pour montrer que toutes les nations industrialisées, la France, les États-Unis, enfin toutes les nations industrialisées, la Suède, se sont développées à l'abri de barrières protectionnistes. Et une fois qu'elles s'étaient développées, elles ont dit ouvrez-vous aux nations plus faibles, dont vous parliez tout à l'heure, qui n'étaient pas en mesure de le faire et qui ont dû le faire. Le bouquin s'appelle Kicking Away the Ladder. Donc on a pris l'échelle protectionniste
pour monter
et après on l'a enlevé aux autres pays. Moi je ne suis pas naïf sur ce genre de sujet. Le protectionnisme, c'est ça qui a permis de se développer. Et effectivement, ça ne sert à rien de s'ouvrir quand en face ça se ferme. Par ailleurs, enfin, avec la transition écologique, on devra quand même relocaliser un certain nombre d'activités et on devra mettre en place des barrières protectionnistes.
Alors moi, je voudrais agir sur un autre sujet qui est la Chine, finalement.
En une minute, ce sera le mot de la fin.
Est-ce qu'il y a ce libre-échange qui, quand même, s'est ouvert depuis 20-30 ans, de manière très générale, on espérait que la Chine, avec l'entrée dans l'OMC, allait devenir une démocratie, ce qui n'est absolument pas le cas, mais on voit quand même les répercussions qui se passent en ce moment. Enfin, la confrontation, je préfère utiliser le mot confrontation que guerre ou quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas rentrer dans cette logique-là, mais la confrontation avec la Chine, effectivement, le grand enjeu du 21e siècle, en espérant qu'on arrive à trouver des solutions tout à fait ouvertes. Mais on voit ce que ça donne sur la population. Maintenant, la population chinoise, elle communique beaucoup plus. Elle est éduquée, le mot n'est pas très beau, j'en conviens, mais en tout cas, elle est beaucoup plus au fait de voir ce qui se passe. Et on voit que la Chine, aujourd'hui, va avoir quand même un sujet très, très lourd à traiter sur cette ouverture de la population. Et ça, c'est quand même lié, d'une manière ou d'une autre, au libre-échange, à la communication entre les pays. Donc, il faut rester dans une logique d'échange et de commerce mondial. Après, chacun à ses niveaux. Le tout, c'est jusqu'où on monte la barrière, quoi, si je veux dire. Voilà.
Mais ça a des impacts positifs. Dans le cas de la Chine, il y a quand même des camps de travail où les gens travaillent dans des conditions pas possibles.
La pauvreté en Chine a reculé de manière phénoménale.
Oui, mais ça ne justifie pas.
On voit aussi ce qui se passe dans un pays qui n'a pas d'État-providence lorsque ça dérape. Voilà. Et ce n'est pas notre cas, par exemple. Bon, merci d'avoir été là. François Eckhall, Dany Lang, Christian Poyon, on se retrouve demain à 9h.